Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour Benoît, Sophie. Bonjour à tous. Au Sud-Soudan, on compte 19 morts en 8 jours de manifestation contre le prix du pain, selon un communiqué officiel ce matin. 5 ans après le déclenchement d'une guerre qui a fait plus de 380 000 morts, une nouvelle page s'était ouverte avec la signature d'un accord de paix en septembre dernier. Cet accord prévoit la mise en place d'un cessez-le-feu et d'un gouvernement transitoire qui doit déboucher sur des élections. Mais les combats ont certes faibli, sauf que la situation sécuritaire reste très préoccupante. Valérie Crovard.
Ce sont des enquêteurs de l'ONU qui l'affirment. Après une visite sur place, les groupes armés continuent de recruter des combattants, ce qui fait craindre une reprise du conflit à tout moment. C'est dire que l'accord de paix n'a pas encore été intégré par toutes les parties. Chef de délégation de la Croix-Rouge, François Stam rentre d'une mission de 18 mois à Djouba, la capitale du Sud-Soudan.
Il y a encore des violations, il y a encore des incidents, il y a encore des problèmes, mais sur une échelle quand même bien réduite par rapport à ce qu'on a pu voir avant l'été. Donc à ces moments-là, c'est relativement encourageant. Ce que certains observateurs craignent, c'est peut-être une localisation et une fragmentation de la violence armée dans différentes régions du pays.
Certaines pratiques n'ont pas disparu, comme le recours au viol comme arme de guerre. Fin novembre, 125 femmes et jeunes filles ont été violées près de la ville de Bentiu, dans le nord.
Lorsque vous avez un raid, malheureusement, il y a toujours une association entre des gains, entre guillemets, purement militaires sur un territoire et les gains matériel, que ça soit par exemple pour voler le bétail, voler les possessions. Et je dirais malheureusement, le viol des femmes, des filles fait partie un peu de cette mentalité. Il y a aussi beaucoup de destruction de propriétés civiles, des villages brûlés, des choses comme ça.
L'accord de paix signé en septembre prévoit un partage du pouvoir entre le chef rebelle Riek Machar, qui doit redevenir vice-président, et Salva Kiir, qui doit rester quant à lui président. Mais nombre d'observateurs émettent des doutes sur la capacité des anciens ennemis d'hier à travailler ensemble.
Nous partons maintenant en RDC, République démocratique du Congo, où après 17 ans au pouvoir, le président Joseph Kabila doit normalement quitter ses fonctions. Les élections ont lieu demain, mais des problèmes logistiques perdurent et beaucoup annoncent déjà que ces élections risquent de ne pas être crédibles. Alors que partout dans le pays, le ras-le-bol vis-à-vis du régime Kabila s'amplifie, Anthony Fouchard.
17 ans de règne sans partage pour Joseph Kabila, qui exerce sans mandat légal depuis décembre 2016. Les élections ont été repoussées par 3 fois. Claude Kinyouyi, activiste, membre d'un mouvement de vigilance citoyenne, résume à lui seul le bilan du régime en place.
Ils ont été incapables d'assurer la sécurité de la population et nous disons qu'il n'y a vraiment aucune raison de pouvoir encore une fois donner confiance à ce régime qui a largement prouvé son incompétence et son incapacité en termes de gestion de la chose publique.
La population de la République démocratique du Congo est une des plus pauvres du monde, alors même que le pays regorge de richesses et de minerais rares, accaparés par une minorité. Le docteur Balamicho Descartes habite dans le nord-est du pays.
Pendant les 17 ans de M. Kabila, tous les points démocratiques ont été déviés. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison-là que nous réclamons les élections, pour que nous ayons maintenant une démocratie digne et honnête.
Grâce au développement de l'armée, Joseph Kabila a pu maintenir l'unité du Congo, un pays toujours déchiré par les guerres et les massacres, quasi quotidiens dans l'est du pays.
Anthony Fouchard en RDC pour France Culture. Le Premier ministre israélien en visite au Brésil depuis hier. C'est une première victoire diplomatique pour Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, à la recherche d'une crédibilité internationale. En effet, Benjamin Netanyahou sera la principale autorité internationale présente à son investiture le 1er janvier. Une cérémonie qui ne compte pour l'instant que 12 chefs d'État. Alors que toujours au Brésil, on apprend ce matin que la justice a inculpé jeudi, le célèbre guérisseur brésilien João Teixeira de Faria, surnommé Jean de Dieu, accusé de viol et d'agression sexuelle par plus de 300 femmes. Parmi les victimes présumées figurent des femmes originaires des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique et de Suisse. L'armée de Bachar el-Assad est entrée hier dans la région de Manbij, dans le nord de la Syrie, en réponse à un appel à l'aide des forces kurdes, illustrant ainsi un revirement d'alliance accéléré par l'annonce du retrait des forces américaines. Ankara, qui avait menacé de lancer une offensive contre les forces kurdes, a réagi avec colère, estimant que celle-ci n'avait pas le droit de faire appel à Damas et mettant en garde contre toute provocation, selon les mots des autorités turques. Avec plus de 300 migrants à bord, dont 139 mineurs, le bateau de l'ONG Proactiva Open Arms a pu accoster dans le sud de l'Espagne hier, une semaine après avoir secouru ces hommes, ces femmes et ces enfants de 19 nationalités différentes, provenant notamment de Somalie, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Soudan, du Nigeria et de Syrie, secourus au large de la Libye. L'Italie et Malte les avaient refusés. En France, l'affaire Benalla, bis repetita avec les révélations de ces derniers jours, le feuilleton politique reprend et c'est au Sénat que cette nouvelle saison pourrait se jouer. Ici, la commission d'enquête ne s'est pas refermée, elle a donc tout le loisir d'organiser de nouvelles auditions et pourquoi pas celle d'Alexandre Benalla lui-même une seconde fois. La sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie est plutôt pour.
Je pense que nous devrons regarder s'il y a matière à le réentendre, plus exactement à voir s'il confirme ou non les propos qu'il nous a tenus à l'époque. Lorsqu'il est venu, il est resté environ 2 heures, il a fait une prestation extrêmement maîtrisée. En l'écoutant, nous n'étions pas totalement sûrs qu'il nous dise la vérité. Aujourd'hui, on sait que sur certains points, il a menti. Donc je pense qu'on va regarder ça tranquillement, y compris en regardant les déclarations d'autres, parce qu'il y a eu une vingtaine de personnes auditionnées, et qui ont peut-être eu à s'exprimer, y compris sur cette question de passeport ou de mission qu'exerçait Alexandre Benalla à l'époque.
Donc Alexandre Benalla pourrait éventuellement être réauditionné, d'autres personnes aussi ?
Oui, d'autres personnes réauditionnées, d'autres personnes auditionnées. Peut-être le Quai d'Orsay pourrait être utilement entendu ou réentendre les supérieurs hiérarchiques d'Alexandre Benalla sur cet octroi du passeport diplomatique.
Des propos aiguilles par Élodie Forêt. Un grand soleil dès ce matin, des Alpes jusqu'au bord de la Méditerranée, de la brume partout ailleurs, de la pluie sur la Picardie. Des températures négatives sur la moitié est avec moins 2 degrés à Belfort, 0 à Strasbourg, moins 1 à Chambéry et à Dijon. 4 degrés à Paris, au bord de la Méditerranée, 8 degrés à Marseille, 9 à Nice, jusqu'à 11 degrés à Narbonne. Il est 9h07 sur France Culture, c'est la fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon et avec à la technique Amine Elmansari et Jordan Fuentes.